Bonjour à tous. Bonjour. Puis merci au moment du groupe de louanges. Merci à tous d'avoir chanté avec enthousiasme et conviction aussi vraiment ces chants de louanges. Et c'est vrai que je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, dans quelle attitude de cœur. On a parlé d'abattement, on a parlé des fois de découragement, mais on a parlé aussi beaucoup de joie et vraiment de bonheur de se retrouver. Et c'est ça qui est bien, de se retrouver en famille, finalement. Ben voilà. Même quand on apporte un message, même quand il y a des choses qu'on a à dire ou qu'on a reçues du Seigneur, eh bien, c'est lourd à porter parce que ça nous fait travailler d'abord nous-mêmes. Et ce matin, j'étais dans l'angoisse, j'étais dans la crainte, parce que j'étais repris vraiment par ce message. Et voilà. Mais malgré tout, ne soyez pas abattus. Repartez à l'issue de ce message aussi, renouvelés, peut-être avec des bonnes idées. Parce qu'à la suite du culte de dimanche dernier, je me suis posé cette question, dans quel temps nous vivons? Est-ce que les jours sont mauvais? C'est Pierry qui nous a fait part de son indignation par rapport à un reportage qu'il a vu à la télé, donc en grandes heures d'écoute. Un reportage qui comparait le Coran et la Bible, et dans lequel il a été annoncé clairement que Jésus donc aurait encouragé le crime par deux fois dans les évangiles. Et puis quand on regarde un peu mieux, on analyse un peu mieux ces passages, ben, ce sont deux passages qui sont plutôt des avertissements que Jésus fait donc, dans la parabole des mines, et ainsi qu'aux pharisiens donc, pour les mettre en garde contre le jugement dernier. Donc il y a de quoi vraiment être indigné et inquiet sur l'évolution que prennent les choses un peu dans ce monde. Mais néanmoins, on est prévenu. On est prévenu par la parole, et nous savons évidemment que l'ennemi a tissé sa toile, et les différents médias, particulièrement, sont ses outils privilégiés pour semer le doute. Et puis arracher aussi la parole qui est semée. C'est les paraboles qui nous parlent de cet ennemi qui vient semer l'ivraie, ou bien encore de ces oiseaux qui viennent enlever les graines qui ont été semées. Alors évidemment, tout ça, ce n'est pas nouveau. On le vit encore quotidiennement. Et plus que jamais, le diable, le prince de ce monde, qui n'a pas, lui, l'attribut de l'omniprésence, il utilise des moyens de communication vraiment interplanétaires, pas interplanétaires, mais seulement planétaires déjà, c'est bien, pour semer cette ivraie, ou enlever la parole de Dieu qui a été semée. Alors, on peut rester comme ça, inquiet, accablé, et puis arrêter finalement notre lecture de ces paraboles à ce moment. Ou bien on peut continuer à leur lecture et voir combien notre Dieu, dans sa grâce, est patient. Et puis, dans ces deux paraboles, il attend la moisson, à la fois pour séparer l'ivraie du bon grain, et puis aussi, combien aussi il attend la moisson lorsque une seule graine peut produire jusqu'à 100 autres. Alors, bien que le diable soit le prince de ce monde, c'est Dieu qui est souverain. Et c'est lui qui a le dernier mot, car tous les temps sont entre ses mains. Et puis, dimanche dernier, encore, on a proclamé ces paroles d'Ésaïe, hein, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », et la terre est remplie de sa gloire. Et ça, c'est des choses que nous devons nous rappeler. Spécifiquement dans ces temps où nous avons l'impression que les jours sont difficiles. Et vivre cette vie de victoire malgré l'abattement et le découragement. Alors ça, c'est toujours facile à dire. Oui, le diable est peut-être le prince de ce monde, car c'est ainsi qu'il est nommé dans la parole de Dieu. Mais n'oublions pas aussi que toute la terre est remplie de la gloire de l'Éternel. Alors, pratiquement, comment vivre ensemble cette vie de victoire, malgré notre perception des choses, qui nous font peut-être croire que tout est perdu et qu'il n'y a plus qu'à attendre le retour de notre Seigneur? Donc, nous vivons tous des périodes de découragement, plus ou moins longues, où on n'arrive plus à voir le positif dans des situations pénibles. Ces périodes particulièrement où on ne se rend même pas plus compte que c'est le Seigneur qui nous porte, quand nous avons l'impression d'être tout seul et incompris, là, isolé dans notre problème. Que ce soit dans le travail ou bien dans l'absence de travail, dans notre couple, dans nos familles, dans notre santé, eh bien, on se trouve peut-être dans ces situations et on ne voit pas d'issue. Alors on attribue cette épreuve comme étant une attaque du diable et en oubliant que c'est Dieu qui gère la situation délicate et qui ne permet pas vraiment que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Non, ces difficultés-là ne sont pas des attaques du diable. Et nous avons donc à être convaincus que les épreuves nous sont envoyées par Dieu, car comme on l'a vu lors de notre dernière étude biblique, les moments difficiles de nos vies ne nous sont pas envoyés comme étant des épreuves vraiment pour nous punir, mais plutôt pour nous éduquer. On a lu ce matin là, la parabole du fils perdu. On peut s'imaginer ce fils qui était perdu, qui était dans l'isolement le plus complet, il avait tout reçu, mais déshérité, sans rien. Quelle situation de découragement? Quelle était vraiment la seule solution? Il n'y avait plus de solution, si ce n'est de revenir au Père, comme on l'a rappelé. Et je voudrais revenir sur ce point. On n'imaginera jamais assez vraiment quel Père nous avons dans le ciel. Ce Père si grand et puis qui est si proche à la fois, qui se laisse appeler papa par ses enfants. Aucun Père ne nous connaît aussi bien. Et il sait dans les moindres détails ce dont nous avons besoin vraiment pour approfondir notre intimité avec lui. Là aussi, on pourrait s'arrêter à la lecture de la parabole. Lorsque le fils est dans la misère la plus profonde, non, il décide de revenir et il est accueilli. Et qu'est-ce que fait le Père? Il le reçoit dans ses bras. C'est une constance de l'amour du Père, pour nous aussi, pour chacun de nous. C'est une constance. Alors on peut être dans le fond du trou, mais voyons par la foi qu'il nous accueille et qu'il veut nous recevoir ainsi dans ses bras d'amour. Ce que recherche le Père, ce sont justement ces enfants-là qui viennent se blottir dans ses bras et qui mettent leur confiance en lui. Alors si nous ressentons de la frustration, de la peine, approchons-nous tout à nouveau de notre papa. Et puis si c'est encore vraiment trop difficile, eh bien, rapprochons-nous de nos frères et sœurs. Mais je crois quand même que c'est plus facile de se rapprocher quand on est vraiment tout seul du papa que de nos frères et sœurs. Mais rapprochons-nous quand même après aussi de nos frères et sœurs, parce qu'eux aussi pourront nous porter, nous accompagner dans les bras de leur Père. Et c'est aussi notre job à chacun, notre rôle, de nous entourer vraiment pour prendre le temps, pour prier, pour veiller aussi les uns sur les autres. En revanche, notre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il dévorera, ben pour nous enlever la joie de ce salut. La joie de notre salut. Et comme tout fauve, le diable va chercher à s'attaquer à ceux qui sont faibles, ceux qui sont découragés, ceux qui sont isolés. Et là, c'est justement là, à ce moment-là, que le diable va attaquer. Et sa stratégie est de couper notre retraite, donc de nous isoler encore plus, de prendre le pas sur nos pensées et nous faire croire que Dieu n'a plus la main. Et que finalement, tout est perdu. Alors, il n'hésitera pas à nous culpabiliser. Il trouvera même peut-être des frères et des sœurs qui feront ce travail à sa place. Mais ainsi sur deux tableaux, ben, nous le laissons nous manipuler. Le premier, c'est la culpabilité qui nous éloigne de notre intimité avec notre Père et qui rend finalement un retour difficile avec lui et vers lui dans un esprit de repentance. Et le second, eh bien, nous nous laissons encore persuader que le diable est plus fort vraiment qu'il ne l'est vraiment. Alors on impute l'épreuve initiale plutôt comme étant, elle, une attaque du diable, alors qu'en réalité, il a plus saisi l'occasion que nous lui avons laissée pour nous enlever cette joie, finalement, que ce soit lui, à la place que ce soit lui qui ait pris vraiment l'initiative, comme on le croit quelquefois. Alors on le voit, une fois de plus, ce combat-là, il est spirituel. Et il faut savoir que l'enjeu est là. Et finalement, toutes les autres épreuves qui ont précédé l'attaque sont secondaires. Et pour mener ce combat spirituel et résister au diable, comme la parole nous le dit, il est bien sûr important d'être correctement équipé des différentes armes du chrétien. Mais je vous pose une question. Est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit d'être bien armé, bien équipé? À votre avis? La suite de ce passage d'Éphésiens 6 rappelle que ce n'est pas seulement ça. Éphésiens 6, verset 18, je vais l'afficher, il est affiché. L'apôtre nous interpelle vraiment à persévérer dans la prière et à veiller. C'est Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Évidemment, pour décourager l'ennemi d'attaquer, rien de tel qu'il sache qu'il est attendu par des hommes qui sont non seulement bien équipés, mais aussi qui sont vigilants. Alors, concrètement pour nous, qu'est-ce que le fait de veiller implique? Veiller, cela implique de ne pas dormir, de laisser nos sens en alerte. Veiller demande un effort, particulièrement quand nous sommes fatigués et que la nuit est avancée. On se souvient des disciples qui s'étaient endormis dans le jardin de Gethsémané, alors que Jésus leur avait demandé de veiller et prier afin qu'ils ne rentrent pas en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Au passage, notez que Jésus associe notre état de vigilance à notre capacité de succomber à la tentation. D'après Jésus, moins on est vigilant, plus on risque de succomber à la tentation. Et dans veiller, il y a une notion de temps, de ce temps vraiment supplémentaire que nous prenons à la place de notre sommeil ou autre activité qui s'y rapproche. Et là encore, la stratégie de l'ennemi est de nous soustraire à ce temps de veille, à ce temps de prière, car il connaît les effets de la puissance de la prière. Il sait contre lui, la prière est une arme redoutable qui le fait reculer. Et il a bien compris que le temps des chrétiens est un enjeu majeur. Et s'il arrive à nous voler notre temps, il nous rendra moins vigilants, il nous privera d'occasion de manier aussi nos armes, et ainsi il se préserve lui-même de coups fatals. Dans le chapitre précédent de l'Épître donc aux Éphésiens, il y a cette expression, chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et je comprends cette expression « rachetez le temps » aussi comme étant une expression synonyme de « veiller et prier, car les jours sont mauvais. » Donc « racheter le temps », c'est donc rendre actuel dans toutes nos activités quotidiennes la victoire accomplie une fois pour toutes. À la croix. C'est proclamer par nos prières et nos louanges le temps de la grâce. Racheter le temps ou veiller, c'est une attitude commune à toutes nos activités. Nous nous posions la question il y a un instant, est-ce que les jours sont mauvais? Évidemment que les jours sont mauvais si nous occupons nos journées sans être conscients de l'importance de notre vigilance. Bien sûr que les jours sont mauvais, si dès que nous sommes tentés, nous ne sommes pas capables de résister et que nous succombons par dépit à la tentation. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés sans défense. Nous avons toute une armure à notre disposition et nous avons le Saint-Esprit qui, de son souffle, active notre esprit et nous alerte. On l'a chanté, il éveille aussi notre âme, il nous rend sensibles à certaines choses. Voilà pourquoi nous avons besoin de veiller, de racheter le temps, c'est-à-dire de mettre vraiment à profit le temps présent pour être prêt à réagir raisonnablement à ces attaques. Et non seulement pour nos propres attaques, mais aussi pour toutes celles de tous les enfants de Dieu. Alors c'est un peu le sens vraiment de ce verset d'Éphésiens, le verset 18 du chapitre 6. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et pour rebondir sur cette expression « faites en tout temps », il est intéressant de voir comment nos journées sont occupées. Et donc je me suis un peu amusé ces derniers temps à voir comment et surtout quand je pourrais améliorer ma vigilance et finalement voir comment racheter le temps. Et j'ai alors pris cette prière de Moïse, ce conseil de Moïse, dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et donc je me suis amusé à compter mes jours. Et j'ai donc estimé sur une vie de 70 ans, combien les activités les plus chronophages représentent d'années. Voilà. Alors, je les ai classées par ordre. Dormir, par exemple, on passe un tiers de notre temps, de notre vie, à dormir, soit 23 ans, si on dort 8 heures par jour. Travailler, pour ceux qui travaillent 8 heures et demie, ça fait 9 ans de notre vie. Distraire, la distraction, les loisirs, le sport, la télé, représente environ 9 ans de notre vie. Manger, voyager, discuter, chacun, 4 ans de notre vie. Se reposer, penser, nos insomnies représentent 3 ans de nos vies. Étudier sur la base de 21 années d'études, 3 ans de nos vies. Le temps passé avec Dieu, si vous passez 30 minutes par jour et que vous avez 3 heures en gros de réunion par semaine, ça fait 2 ans de vos vies. Bref, voilà toute la liste. Il y avait 2,5 ans que je ne sais pas où classer. Hein ? Non, je l'ai mis le ménage. Ranger, faire le ménage. C'est un peu moi, oui. Non, mais voilà, ces calculs sont un peu arbitraires et il est fort possible que ces évaluations ne correspondent pas exactement à notre réalité. Quoi qu'il en soit, Dieu désire que nous fassions le meilleur usage de notre temps. Et ça pour éviter qu'il exerce une véritable tyrannie sur nous qui courons sans cesse de droite à gauche pour profiter au maximum du temps qui passe. C'est pourquoi nous pouvons améliorer notre vigilance et racheter le temps finalement de deux façons. Donc la première, c'est en regardant finalement s'il n'y a pas des activités que l'on peut réduire progressivement pour augmenter notre temps passé avec Dieu. Seulement, si on fait ça, on se rend vite compte que c'est un peu limité. Juste, tu peux montrer l'autre. Voilà, j'ai augmenté, par exemple, de 30 minutes par jour le temps passé avec Dieu, et j'ai réduit mes distractions parce que finalement, c'est le truc peut-être le moins facile, mais qui est le plus logique, d'une demi-heure. Et on voit que finalement, on gagne qu'une année, quoi, de plus. Donc vous pouvez essayer de réduire tout, à part de ne pas travailler, à part d'arrêter de manger, de dormir. Vous aurez du mal à augmenter finalement votre temps passé avec Dieu. Mais malgré tout, on est encouragé à prendre quand même du temps. Et je veux pas vous dire, je vous dis pas ça pour ne pas vous dire de ne pas prendre du temps. Évidemment, je vous encourage à mettre vraiment du temps à part avec votre Dieu pour lire, pour méditer la parole. Car bien sûr, plus du temps on passe avec lui de façon consciente, plus on a le désir aussi de le découvrir et de connaître. Et là, si je peux vraiment vous donner un conseil pratique qui marche, il n'y en a qu'un, c'est de vous lever une demi-heure plus tôt. Levez-vous un quart d'heure, une demi-heure plus tôt. Il n'y a pas d'autre solution. Vous n'avez pas le temps d'augmenter le temps dans la journée, mais prenez le premier moment de la journée, donnez-le à Dieu. 15 à 30 minutes de temps de plus de matin. Alors, je vois Paul, il se lève déjà à 6h du matin, ou il commence le boulot à 6h du matin, je ne sais pas à quelle heure il se lève. J'imagine, c'est dur. Mais comme il est difficile de donner de temps, ben donnons-lui déjà le premier temps au début de notre journée. Et si on a envie encore, et ça c'est le sens vraiment de ce verset, de fait en tout temps par l'esprit, la deuxième façon finalement d'augmenter un peu notre état de veille, notre état de racheter cette situation, de racheter notre temps et le temps, eh bien, c'est de prendre dans chacun de ces moments-là de la journée, eh bien, de prendre un temps comme ça pour prier, de façon légère, dans votre tête ou en fredonnant. Et on va rentrer un peu plus dans les détails, parce que c'est là, en tout temps, la meilleure façon de rester aussi vigilant et de se préserver des attaques du diable. Moi, il arrive dans la journée où je suis tellement dans le stress au travail que je rentre le soir et je me dis, j'ai pas eu à aucun moment la pensée dans mon travail qu'il y avait Dieu qui était là. J'étais là sourd à l'appel du Saint-Esprit qui pourtant par des soupirs veut et j'ai pas entendu, j'entends pas, je suis pris dans mon truc. Et je me dis, là, il y a du temps à prendre. Dans chacune de nos activités de la journée, il y a un temps à prendre pour mettre à part pour le Seigneur. Et cette deuxième façon-là, finalement, nous permet de rester dans un état de veille. Donc, à la suite de notre temps du matin, le Saint-Esprit, finalement, ainsi saura, lui, optimiser ce temps-là. Vous imaginez l'impact, un peu, de ces prières, de ces moments. Imaginez que vous vous promenez, et puis que vous voyez, j'en sais rien, une Clio bleue par exemple, moi je penserai à Raymond, voilà, je prie pour Raymond. Vous êtes en train de vous divertir, et puis vous voyez, vous promenez, et puis vous voyez des oiseaux et des fleurs, je loue le Seigneur. Vous voyez les informations à la télé, Et puis, prier dans ces moments-là, parce que vous voyez qu'en Syrie, en Irak, les chrétiens, c'est pas facile du tout. La meilleure façon de garder notre état de veille et de vigilance, c'est de, en tout temps, d'avoir un peu ressentir cette présence du Saint-Esprit qui nous interpelle par les circonstances, qui nous interpelle par les pensées. Vous êtes peut-être réveillé la nuit, réfléchissez pourquoi vous êtes réveillé. Il y a une prière, il y a peut-être quelqu'un dans l'église là qui fait un cauchemar, peut-être dans l'église quelqu'un qui est dans la difficulté et qui a du mal à dormir, priez pour lui aussi. Des fois, on en fait une montagne de ce temps et on se culpabilise toujours en disant « mais ouais, j'y arriverai pas, je sais pas comment faire ». Mais je pense qu'il y a des choses simples et la parole et l'apôtre Paul là nous dit de faire en tout temps, de faire de prier en tout temps, toutes sortes, par l'esprit, toutes sortes de prières. Donc voilà, je vous laisse avec ces quelques propositions pratiques. Veillons, rachetons le temps, mettons à profit les occasions qui nous sont données de servir Dieu, faisons-en bons usages. Bien sûr, ne perdons pas notre temps dans des occupations sans valeur, sans utilité. Certes, le diable inlassablement, on va continuer à harceler notre emploi du temps. mais n'oublions pas que nous avons l'autorité et le devoir de lui résister. Un dicton affirme que le temps perdu ne se rattrape jamais. Même si ce n'est pas une parole de l'Évangile, on doit comprendre que nous sommes responsables de l'utilisation bonne ou mauvaise de notre temps. Et d'où cette prière du psaume 90, et je vous propose de le lire jusqu'à la fin. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand ? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Voilà, dès le matin, laissons-nous rassasier de la bonté que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et moi, j'aime bien cette suite. Là, il y a une conséquence, il y a une certitude, c'est une affirmation, c'est une chose que nous proclamons. Nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Donc de quelle façon utiliserons-nous le temps que le Seigneur nous confiera encore ? En le perdant ou en le rachetant ? Les temps de prière, de témoignage et de service en l'honneur de Dieu et aussi en faveur de notre prochain ne seront jamais, jamais du temps perdu. On le voit, affermi l'ouvrage de nos mains. Oui, affermi l'ouvrage de nos mains. Voilà, je vous laisse un peu dans la réflexion et dans vos propres réflexions pour trouver un plan pour vous de vos journées.
Merci Pierre pour ce message qui nous parle, qui nous aide à nous remettre en cause et à remettre aussi Dieu à la première place. Je partage avec vous les annonces. Tout d'abord le programme de la semaine. Demain soir le conseil se rencontre à 19h30. Demain soir il y a aussi la réunion d'école du dimanche, la rencontre entre les moniteurs et monitrices. Qui va se tenir chez Fred et Nancy, c'est juste, à 20h30. Mardi soir, études bibliques. Alors justement, on parle de priorité. C'est aussi une priorité, une question de priorité. C'est aussi une question de temps à mettre à part pour notre Dieu, pour aussi se retrouver ensemble pour l'écouter, pour écouter ce qu'il a à nous dire. Mercredi, on a prévu donc une nouvelle série de formations baptême ou introduction baptême. Pour l'instant, personne ne s'est encore manifesté, mais ce n'est pas trop tard. Si vous n'êtes pas baptisé, posez-vous la question, est-ce que j'ai réellement bien compris ce qu'est le baptême, ce qu'il représente, ce qu'il doit représenter pour chacun de nous, l'engagement qu'il représente aussi. Voilà, si ce sont des questions que vous vous posez, ce temps de préparation baptême, formation baptême n'est pas en soi un engagement, c'est surtout un engagement à se former, à savoir qu'est-ce que ça représente. Eh bien, contactez Jean-Paul, qui est à disposition pour cela, ou l'un de nous, mais ne laissez pas passer ce temps à côté. Jeudi, on a la rencontre de la pastorale. Jeudi soir, la chorale qui se retrouve. Samedi, on a la première rencontre du séminaire sur le thème laïcité et liberté d'expression. Donc c'est Étienne Lermonneau qui va nous présenter ce sujet. Donc je vous rappelle juste que Étienne Lermonneau est le président du CNEF. L'Église ici est membre de la du réseau de la Fédération évangélique de France, réseau FEF, et le réseau FEF fait partie du CNEF. Et puis ce sujet, laïcité, liberté d'expression, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment d'actualité. On le voit déjà dans notre commune, on le voit aussi dans les sujets que l'on partage au niveau des pays dans lesquels il y a la persécution. C'est vraiment un sujet important, un sujet qui prend aussi de plus en plus d'importance dans notre pays. Dimanche prochain, le culte, ici à 10h30, et c'est donc aussi Étienne Lermoneau qui nous apportera le message. Dimanche prochain, on vous propose de rester pour partager un pique-nique, parce qu'à 14h, il y a donc une nouvelle rencontre, la fin du séminaire, sur le thème « Faire de toutes les nations des disciples ». Alors je dirais que c'est un petit peu la suite de la question de la liberté d'expression, puisque c'est la question du témoignage et de l'évangélisation. La semaine d'après, il y aura l'étude biblique des aînés. C'est important d'y penser, de réserver cette date dans les agendas pour les aînés. Oui. Voilà.
Le groupe de jeunes va au séminaire.
Voilà, exactement. Voilà. Donc le groupe de jeunes a prévu de venir au séminaire, donc aussi samedi soir. Je vais laisser la parole à Rebecca pour une petite annonce sur le club d'été.
Alors le club d'été est en route, et ça fait partie des super bons temps qu'on va passer ensemble entre frères et sœurs, qu'on va passer du temps avec Dieu. Et moi, je suis toujours émue de voir toutes les inscriptions qui continuent aussi bien en tant que bénévole, en tant qu'enfant. On a déjà 57 enfants inscrits et c'est vraiment un sujet de joie, un sujet de reconnaissance. Et je vous demande vraiment à chacun de prier déjà pour ces enfants. Il y a des enfants qui entendent la parole de Dieu uniquement cette semaine-là. Et ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'ils viennent maintenant, qu'ils ont envie de passer ce temps avec nous, avec Dieu, et c'est des sujets d'encouragement. Et je remercie le Seigneur pour la super équipe qu'on forme déjà. On a nos 10 moniteurs et monitrices déjà. Il nous manque encore quelques aides-moniteurs dans les plus jeunes. Je vous encourage à vous inscrire, à vivre ces temps bénis avec nous. Il suffit d'avoir 15 ans, et après, il n'y a pas de limite d'âge. Vous êtes tous les bienvenus. Les réunions vont se mettre en route. Donc, on va commencer par la commission bricolage. Donc, on a mis une date le lundi 11 mai à 20h30 chez nous. Si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous êtes intéressé de tenir un atelier ou simplement de venir nous aider, soyez les bienvenus et vraiment, on va passer des bons moments. Que toute la gloire revienne au Seigneur.
Merci. C'est vrai que c'est un temps à part. Justement, on va parler d'évangélisation dans une semaine. C'est aussi un temps pour cela. Et si on regarde le temps que ça représente dans une vie, c'est un petit peu ce que Pierre nous a partagé dans un tableau, c'est vraiment pas grand-chose. Mais si la durée n'est pas importante, le contenu, lui, est important et peut transformer des vies. Je vous rappelle aussi le service d'accueil. Le service d'accueil se remet en route dans l'église. Pendant quelques années, il y a eu un blackout, là, un trou. Alors, il y a sur le tableau, au fond de la salle, il y a possibilité de s'inscrire. J'ai été voir tout à l'heure, il y a 2 personnes qui se sont inscrites. Alors, c'est bien, c'est sympa, le service d'accueil se remet en route, mais 2 personnes plus 2 qui le managent, ça ne fait pas grand-chose, ça ne fait pas beaucoup. Alors moi, je vous invite vraiment chacune et chacun. Là aussi, il n'y a pas d'âge limite. Mais c'est important que les personnes qui viennent aussi au culte se sentent soit accueillies, qu'il puisse y avoir un petit contact, une poignée de main, un sourire. C'est aussi un sujet important. Dimanche passé, je vous ai partagé ce sujet, donc qu'il y a un week-end d'hommes qui s'organise dans le cadre de la pastorale alpine du réseau du FEF. Donc ce sera le 6 et 7 juin. Alors il y a déjà 3 personnes qui se sont inscrites. Waouh, j'en attendais, je ne pensais pas qu'il y aurait comme ça autant de personnes intéressées. Alors si vous êtes intéressé vraiment, n'hésitez pas, en tout cas renseignez-vous. Si vous êtes disponible, ce sera donc les 6 et 7 juin. Cette semaine, on vous invite à prier pour un petit pays dont on entend peu parler, qui est la Jordanie. Dans le cadre des pays dans lesquels il y a de la persécution. Alors la Jordanie, c'est le pays numéro 30 sur la liste, qui est donc à l'est d'Israël. L'islam est la religion d'État en Jordanie. Il est donc interdit pour les Jordaniens qui sont musulmans de quitter l'islam. La constitution jordanienne, par contre, est relativement tolérante. Les principales sources de persécution, par contre, en Jordanie sont l'extrémisme islamique, la paranoïa dictatoriale et l'opposition tribale, c'est-à-dire les oppositions entre les personnes qui constituent les Jordaniens. D'un côté, certaines églises sont reconnues et tolérées par l'État jordanien, mais de notre côté, les personnes qui se convertissent au christianisme subissent une discrimination sociale constante et importante. Et c'est pour ces personnes-là que c'est important de prier, vraiment soutenir nos frères et sœurs qui sont dans ce pays, qui sont jordaniens et qui se tournent vers Dieu, qui ont la révélation du Dieu sauveur. Prions pour eux parce que malgré un pays qui, théoriquement, n'est pas opposé, pour eux, c'est vraiment difficile parce qu'ils n'ont pas la possibilité de changer de religion, de changer de façon de penser, en tout cas au niveau officiel. Et c'est vraiment là que se passe la difficulté pour les chrétiens. La Jordanie, ce n'est pas un grand pays au niveau du nombre d'habitants, puisqu'il a 7,7 millions d'habitants. Et il y a relativement peu de chrétiens, 172 000 chrétiens environ. Donc, prions vraiment pour ce pays et remettons-le à notre Dieu. Je vous invite à vous lever. Je partage encore deux versets avec vous dans Éphésiens 3. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.